Radio Foot International, Annie Gasnier.
Bonjour à tous et heureuse de vous retrouver dans Radio Foot International. Aujourd'hui, Olivier Pron a bien tenu la maison. Alors nous commencerons aujourd'hui par le beau coup du Sénégal, vainqueur de l'Angleterre sur ses terres à Nottingham. Même amicale, cette victoire de prestige est historique car c'est la première défaite anglaise face à une formation africaine. Les Lions de la Teranga ont enchaîné un 22e match sans défaite. Allez les Lions! Pour la Free Lions et Thomas Tuchel, c'est moins bien et nous en parlerons. Nous évoquerons cette rencontre avec Eladji Diouf. Des Fennecs à réaction, mais pas suffisant. Et les Algériens se sont finalement inclinés face aux Suédois. Un match animé, 7 buts au total, une défaite. Mais les hommes de Petkovic sont revenus de loin. Une sacrée remontada avec un doublé de Bentaleb. Au Brésil, qualifié pour la prochaine Coupe du Monde. Le but face au Paraguay est venu de Vinicius. Et le Brésil assure sa place, mais déjà il semble aller un petit peu mieux sous la direction de Carlo Ancelotti, même s'il y a encore beaucoup à faire. L'Équateur s'est aussi qualifié alors que le Chili est éliminé. Pour évoquer ces sujets, eh bien, un homme qui connaît bien l'Angleterre, Bruno Constant, bonjour.
Bonjour Annie, bonjour à tous.
À vos côtés, Nabil Djellit, lui connaît bien les Fennecs.
Ouais,
bonjour
surtout,
Nabil, notamment.
Bonjour Annie, surtout au mois de juillet. 3 semaines à l'est du pays vers Gigel, quoi. Voilà.
Ouais. C'est pas encore le temps. Hein. Le temps n'est pas encore venu. Et puis Dominique Baïf, qui lui connaît bien les Sud-Américains. Bonjour Dominique.
Bonjour, bonjour à tous.
Merci d'être là. Cette émission a été préparée avec l'aide de Pierre Guérin et David Finzel, ainsi que Laurent Salerno, qui est aux commandes. Radio Foot, c'est parti.
Jackson qui arrive à centrer, Ismaïla Sarr qui égalise à la 40e minute. Les Sénégalais qui remettent les pendules à l'heure au Sissi Ground de Nottingham. Habib Diarra dans la profondeur. Habib Diarra face à Dean Anderson. Habib Diarra! Les Sénégalais qui prennent l'avantage. C'est le troisième but sénégalais. Le troisième but sénégalais marqué par Chiati Diagne Savani. Vous ne rêvez pas, chers amis. C'est le Sénégal qui mène.
Les Lions de la Teranga ont donc crêpé la crinière des Lions d'Angleterre hier soir à Nottingham, où la Free Lions ne jouait plus depuis mars 1909. Les Sénégalais ont remporté une belle victoire, exploit royal, victoire de luxe, very good, se réjouissait en une la presse ce matin à Dakar. Une victoire de prestige donc, puisque la rencontre était amicale, mais une victoire pour faire taire certains commentaires. Ils étaient piqués au vif, les joueurs de Pape Thiau, comme nous l'a confié, entre deux avions sur le chemin du retour, l'ancien international Eladji Diouf, qui connaît bien l'Angleterre, n'est-ce pas, heureux de sa soirée à Nottingham.
Vous savez qu'il y a des matchs qui sont plus que des matchs de football. Je me rappelle que la veille du match, c'est moi-même qui l'ai appris aux joueurs quand les journalistes anglais ils sont venus m'interviewer en me disant que vous savez qu'il n'y a aucune équipe africaine qui avait déjà gagné contre l'Angleterre. Et moi, je me suis dit que c'était impossible, ils se sont trompés ou des trucs comme ça. Et de deux, ils nous avaient dicté leur loi pendant la Coupe du Monde au Qatar. Et en trois, il y a quelques joueurs anglais qui croyaient que le niveau du football africain était en dessous, comme Carragher. Avant le match, on en a parlé avec les joueurs. Moi, en tant qu'ambassadeur de l'équipe nationale, et Pape Thiau, qui connaît très bien la maison, plus les gens autour, la Mindiata, le staff technique, on les a galvanisés en leur disant que c'était un match pas comme les autres. C'est bien de le gagner, rien que pour casser le record et écrire l'histoire et de montrer qu'on peut venir chez eux, leur montrer que le talent est africain, le football est africain et c'est ce qu'on a su faire hier. On était en mission commando.
L'aventure du Sénégal à cette Coupe du Monde qui s'arrête ici au stade Al Bayt.
Les Anglais ont enfoncé le clou et scellé l'affaire avec un 3-0, le troisième but dans cette...
Il y avait aussi sans doute dans un coin de votre tête ce match perdu en Coupe du Monde. Ce n'était pas une revanche puisque c'était un match amical et en même temps, il y avait peut-être un désir d'embêter ces Anglais.
On a appris de nos erreurs de la Coupe du Monde de Qatar. Moi, je crois que la défaite d'hier fait plus même mal que notre défaite au Qatar. Le pourquoi ? parce que quand à 1-0 ils marquent, tout le stade était euphorique. On revient, on marque le deuxième, on marque le troisième et que tout le stade se mettait à les siffler. Je crois que hier ils ont vécu un moment pas agréable du tout parce que j'ai été footballeur, je sais comment ça se passe et je sais comment le public anglais peut être le meilleur fan. Comme ils peuvent retourner leur veste aussi comme hier ils l'ont fait. Et j'ai vu le Sénégal dominer son sujet de A à Z.
C'est la première donc sélection africaine à battre les Anglais. Comment ils ont fêté ça, vos joueurs? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti après le match?
Mais vous savez, c'est des grands professionnels. Ils étaient contents sur le coup parce qu'il fallait qu'ils fassent ce que personne n'a fait. Le Sénégal a l'habitude, on l'a vu en 2002, on l'avait fait, nous, leurs aînés, de choquer le monde pour le match d'ouverture de 2002. Et hier, on les a dit que vous aussi, vous pouvez écrire votre propre histoire. C'est le moment de montrer à tout le monde que le football n'est pas anglais. Le football est né au Sénégal, mais pas en Angleterre, comme on le dit.
Eladj, justement, eh bien, peut-être que cette première victoire d'une sélection africaine, ça va ôter des complexes à toutes les sélections africaines.
Mais bien sûr, c'est qu'on voulait passer un message à nos amis africains, à nos frères, à nos sœurs, comme quoi que tout est possible. Je crois qu'il n'y a plus de complexes ni de supériorité entre les nations comme l'Angleterre, la France, l'Allemagne et les pays africains. Je crois que le Maroc l'a montré contre le Brésil. Le Sénégal l'a montré contre le Brésil et le Cameroun aussi l'a montré contre le Brésil. Je crois qu'aujourd'hui, nous, notre rôle, on l'a bien joué. Ma génération et la génération de Samuel, la génération de Roger Milla et tout ça, on a décomplexé nos jeunes frères pour leur dire que tout est possible. Ils peuvent aussi être meilleurs comme eux. Et j'étais content d'être au stade et c'était un régal de voir mes petits frères leur donner une leçon.
Une dernière question à la Jidjouf. Est-ce qu'on peut dire que le Sénégal, après ces belles années avec Aliou Cissé, avec ce titre de champion d'Afrique, et bien sous la direction de Pape Thiaw, est rentré dans une nouvelle ère d'une certaine façon et peut-être sans Sadio Mané désormais?
Je dirais pas ça. Sadio, on a toujours besoin de lui. Sadio a tellement fait pour notre pays. Sadio, c'est un très grand joueur, un très grand professionnel. Nous, on s'est dit que si Sadio était là hier, l'addition allait être plus salée. Et je crois que on est dans une continuité d'Aliou Cissé. Aujourd'hui, Pape Thiaw, c'est le petit frère d'Aliou Cissé, on l'a pris en réfléchissant et je crois que la Fédération Sénégalaise de Football a très bien fait le choix de Pape Thiaw parce que c'est vachement réfléchi et comme j'ai l'habitude de dire, c'est sur la continuité d'Aliou Cissé.
Objectif, Coupe du Monde 2026 maintenant.
Bah, et le Sénégal n'a pas le droit de ne pas participer à une Coupe du Monde. Avant, je me rappelle, quand on était petit, on se qualifiait à une Coupe d'Afrique, c'était la fête. On sortait dans la rue comme si on avait gagné la Coupe d'Afrique. C'est rien que par les qualifications. Et quand on se qualifiait pour la Coupe du Monde, c'était encore pire. Et maintenant, là où je vous dis, on se doit maintenant à chaque Coupe du Monde de représenter l'Afrique parce qu'aujourd'hui, le Sénégal, c'est une terre de football. Le Sénégal, c'est une centre de formation sérieux. Une Coupe du Monde sans le Sénégal, je crois que ce ne sera pas les mêmes saveurs qu'une vraie Coupe du Monde.
Et oui, on a tous envie aussi de voir le Sénégal à la Coupe du Monde parce qu'à chaque fois, il a eu des prestations marquantes. En tout cas, lui, il se souvient bien, Bruno Constant, avant qu'on parle de ce match, mais de cette petite phrase, de cette petite remarque qu'avait eu Jamie Gallagher en février dernier, quand on évoquait le ballon d'or possible, probable, éventuel de Mo Salah, et qu'il y avait eu cette petite phrase, la CAN est une compétition mineure. Hein. En gros, je résume sa pensée.
Est-ce qu'on peut quand même rappeler que ce qu'a dit Jamie Gallagher, c'est honnêtement ce que tout le monde pense en Europe, quand il y a des débats sur les chaînes de télévision françaises, radio françaises, quand on parle de la CAN,
radio française, oui.
On la dévalorise par RFI évidemment. Mais je veux dire, quand on parle des ballons d'or, on parle de la Ligue des Champions, on parle de la Ligue des Nations, de la Coupe du Monde, de l'Euro, on ne parle jamais de la CAN. Donc il y a une hypocrisie par rapport à
ça. Mais c'est malheureux.
Mais c'est malheureux, bien sûr c'est malheureux.
Bah
bien
donc
sûr,
ça peut changer.
Mais ce qu'a dit Jamie Carragher, tout le monde le pense en Europe. Il faut
arrêter
cette hypocrisie.
Oui, mais bêtement peut-être.
Non, il a dit ce que tout le monde pensait. Est-ce que quand on mentionne jamais la CAN dans le débat du ballon d'or...
Non, ça ne compte pas, mais ça ne veut pas dire que c'est une mauvaise compétition. Mais jusqu'à présent, même la Copa América ne comptait pas.
Mais d'ailleurs, c'est ce qu'il dit en substance, Jamie Carragher. Il dit juste que dans le débat du ballon d'or, on ne prend jamais en compte la CAN parce qu'on estime en Europe et dans le monde que c'est une compétition inférieure à l'Euro et à la Coupe du Monde.
Inférieure, en tout cas, qui ne compte pas. Nabil,
Sur Carragher ou sur, ou sur la CAN?
Sur ce que vous voulez.
Bah, moi, sur la CAN, évidemment, je ne suis pas d'accord avec ce que peuvent penser certains. Mais il faut rappeler que le Ballon d'Or, les croyances sont d'abord européennes, puisque ça a d'abord été très longtemps un Ballon d'Or européen. Mm-hmm. Il s'est ouvert qu'à partir de 1995. Et puis, avec une autre mouture pour des joueurs évoluant sur d'autres continents à partir de 2007 ou 2008. Donc de
et on ne va pas refaire le débat, mais on se souvient que des joueurs qui gagnent la Coupe du Monde comme Xavi ou comme Iniesta n'ont pas le Ballon d'Or, alors que c'est Messi cette année-là qui, lui, ne gagne pas du tout.
Après, la CAN peut faire basculer un Ballon d'Or. Je veux dire, si Mohamed Salah se retrouvait en compétition à touche-touche avec un autre joueur, et s'il gagne la CAN avec l'Égypte,
et qu'il fait des statistiques,
il va prendre le Ballon d'Or et la CAN va être à ce moment-là le truc qui va faire.
Mais on n'en est même pas sûr.
Moi je le pense. On se souvient tous que Messi, son dernier Ballon d'Or ou avant-dernier, pour justifier, c'était il a gagné la Copa América. Et là, quand même, Dominique, on tombait un peu de l'armoire là. Parce que jamais la Copa América n'était. On en tenait compte pour un Ballon d'Or.
On avait autant d'importance dans le vote final du Ballon d'Or. Mais après, effectivement, c'est le nom du joueur qui a été valorisé, qui a été plébiscité et pas forcément les prestations, c'est ça qui est dommage.
Après, pour terminer là-dessus, même si il y a encore du travail, mais qu'on le veuille ou non, la CAN prend de plus en plus de place, notamment avec une viralité via les réseaux sociaux. Mmh. C'est une compétition qui est de plus en plus regardée.
Les plus grands joueurs africains étant en Europe, il y a des stars.
Ok, c'est pas la Coupe du Monde, c'est pas l'Euro, mais ça se rapproche.
En tout cas, Nabil, pour ces Sénégalais, est-ce que vous diriez que c'est un joli coup et que surtout, ça va marquer les esprits, comme le dit El Hadj?
C'est un succès de prestige pour le Sénégal sur finalement une séquence très haute de leur football. Et, même s'ils n'ont pas gagné la dernière CAN, ils en ont gagné une juste avant. Et être capable d'aller matcher et gagner en Angleterre, parce que ce n'est pas sur terrain neutre. Ou au Sénégal, c'est une performance qu'on ne peut pas minimiser ni banaliser, même si peut-être du côté de l'Angleterre, ce n'était pas totalement l'équipe type, ou peut-être que c'est un nouveau cycle qui démarque. Mais ils ont envoyé un message, et dans les esprits, je ne sais pas, il y a 15-20 ans, vous allez voir un Anglais, pas une seule seconde, il s'imagine que le Sénégal va venir gagner en Angleterre.
Non, mais surtout être la première nation africaine à battre l'Angleterre, c'est ça peut-être le plus symbolique. Bruno, ça a été. Quels ont été les titres du côté de l'Angleterre?
Il n'y a pas eu beaucoup de rencontres face aux nations africaines. Je crois que c'est la 16e rencontre contre l'Angleterre. Mais non, mais là, c'était un match amical et on en a de moins en moins avec la Ligue des Nations, toutes ces compétitions qu'on nous rajoute.
Ouais, il y a peu d'occasions.
Et c'était surtout deux équipes qui ne jouaient pas pour la même chose. C'était effectivement, comme l'a dit Nabil, un match de prestige pour le Sénégal et il n'y a rien enlevé à la victoire du Sénégal qui est totalement mérité, même s'il y avait un but qui a été refusé à Bellingham à 2-1. Mais l'Angleterre ne joue pas pour la même chose. L'Angleterre jouait un match amical au bout d'une saison marathon où ils sont tous crevés, fatigués.
Enfin, les Sénégalais, eux aussi, la première Europe, ligue, ils sont crevés.
Tout
le monde est fatigué. Hein.
Mais eux, ils n'avaient pas envie d'être là, en fait. Ils n'ont pas envie d'être là. Il y a une Coupe du Monde des clubs pour certains. Il y a la Ligue des Champions qui a été très longue. On rattaque la saison très vite. Et surtout, l'objectif principal, c'est la Coupe du Monde 2026. Et c'est la construction d'équipe que va faire Thomas Tuchel.
Quand tu dis ils n'ont pas envie d'être là, c'est-à-dire que quand il y a un nouveau cycle qui démarque et tu portes le maillot de l'Angleterre, quand tu es un joueur, là, il y a un nouvel entraîneur, tu es là pour marquer des points.
Oui, c'est ce qu'on peut penser. Mais d'ailleurs, le manque d'attitude a été ciblé.
On va y venir à l'Angleterre. Moi, j'aimerais quand même continuer sur les Sénégalais. Nabil, c'est une équipe où quand même, on a et les anciens, Et des nouveaux, et des petits nouveaux. Alors, on a encore des champions d'Afrique, Ismaïla Sarr, qui était, si je ne me trompe pas, cette année-là. Khalidou Koulibaly, bien sûr. Ghanagay,
qui est extraordinaire, qui a fait une saison extraordinaire avec Everton. Vous connaissez le film avec Dustin Hoffman, Marathon Man. C'est Marathon Man. Il ne s'arrête jamais de courir. Moi, je l'ai eu en cours de saison.
Il fait une passe décisive, si je ne me trompe pas, ou l'avant-dernière.
Après, il est intelligent aussi dans ses déplacements, mais il y a aussi une nouvelle génération qui émerge, qui est incarnée par un joueur pour l'instant sous-coté au niveau international, mais s'il est transféré en Angleterre, il va peut-être prendre une autre dimension. C'est Habib Diarra, qui est vraiment une super pioche. Un garçon qui était quand même concerné aussi par l'équipe de France Espoir et qui aurait pu très bien devenir international français à terme. Sans aucun souci, parce qu'il a une arme de qualité. Il leur appelle aussi de la créativité et de la projection au milieu de terrain. Il y a des garçons qui se libèrent aussi, comme Illiman Gueye, sur ce match-là. Donc, sur le papier, on a vu une belle équipe du Sénégal qui a mis de l'intensité, qui a gagné les duels et qui a mis beaucoup plus de fighting spirit, si je puis me permettre, que l'Angleterre.
Quand je dis que les deux équipes ne jouaient pas pour la même chose, ça a été marquant dans les célébrations de la victoire des Sénégalais. et notamment sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire pendant de longues minutes.
Bah vous voyez, ils avaient été chauffés
Anglais,
par Alage.
Mais les Anglais, si les Anglais avaient remporté ce match, vous pensez qu'ils auraient célébré ce match? Non, ils auraient été un match comme un autre, une victoire comme une autre.
Ah oui, mais parce que ça aurait été plus logique pour les Anglais de remporter.
Exactement, c'est pour ça que je dis qu'ils ne jouaient pas du tout la même chose.
Mais je pense qu'ils sont prévenus pour les prochains coups.
Quand même.
Ouais, je ne suis pas sûr.
Vous l'avez entendu, Dominique Baïf, quand je lui demande si on est rentré, alors c'était peut-être maladroit dans le sens, ce n'est pas une nouvelle ère, peut-être, mais il parle de continuité par rapport à Aliou Cissé, Eladji Diouf. Et surtout, alors je ne veux pas du tout exclure Sadio Mané, mais ce que je voulais dire, c'est lui comme Kalidou Koulibaly, par exemple, on sait que c'est déjà un peu la fin plutôt. Voilà, et qu'on prépare autre chose. Et est-ce que pour vous, c'est une nouvelle. On voit apparaître une nouvelle équipe sénégalaise?
Oui, il y a des jeunes joueurs qui arrivent à être titulaires dans leur club en Europe, que ce soit en France, comme on voit à Strasbourg, on voit aussi en Angleterre, Ismaël Sarr, qui a fait une très grosse saison en Angleterre.
Jackson
aussi, du côté de Chelsea. Donc, ce sont des jeunes joueurs, qui était passé à Marseille et qui est revenu en Angleterre et qui fonctionne bien. Et cette jeune génération a la chance d'avoir des sages comme Sadio Mané, comme Koulibaly, qui sont là, comme Mendy, pour les accompagner.
Ganagay
au milieu de terrain, pour leur montrer la voie, leur dire voilà, nous on a réussi à gagner. Maintenant, on va vous apprendre, on va vous passer le relais, il va falloir aussi avoir les épaules pour le faire.
Exactement.
Mais ça, c'est
parce
en
qu'ils
jouant.
Ont été champions d'Afrique et qu'il y a ce prestige.
Il y a cette expérience-là, mais c'est en jouant et en leur donnant des minutes et surtout de la confiance. Il ne faut pas se tirer dans les pattes. Et ça, je pense que les cadres aujourd'hui sénégalais l'ont bien compris.
Après,
le sélectionneur aussi est là pour cadrer les choses, leur dire il y a une jeune génération et il faut les aider.
Mais Pape Thion, en tout cas, il a été choisi par la fédération
à la suite de...
intérimaire pendant un moment. Et puis finalement, c'est quelqu'un qui confirme Nabil.
Il est en train de s'installer, sauf qu'Annie, après, on ne peut pas non plus oublier le double agenda. Là, c'est vrai qu'on est sur un match de fin de saison avec effectivement un match de gala, et vous avez raison de lui rappeler. Mais le match le plus important de l'année pour le Sénégal,
ça
on sait tous,
contre la RDC.
C'est contre la RDC.
Bien sûr.
En RDC. Et là, ça va être
pour la qualification,
pour la qualification
en vue
à la Coupe du Monde, dans une poule extrêmement serrée, avec également un troisième acteur qui surprend, c'est le Soudan qui est là. Moi, j'ai vu donc, alors là, face à l'Angleterre, effectivement, ils font un gros match, mais la configuration du match, elle est plus simple pour des équipes comme ça parce que les Anglais, ils ouvrent le jeu, ils sont pas là pour faire un bloc bas. En revanche, quand tu vas jouer au Soudan, parce que j'ai regardé le match du Soudan avec la même équipe, avec quasiment la même équipe là, avec il y avait Sadio Mané, quand tu as des blocs bas en Afrique avec parfois des pelouses qui sont des pas terrains. Toujours au rendez-vous, alors on a progressé là-dessus, hein, je suis pas en train de vous faire alors, le discours habituel, face à des blocs bas sur le continent, le match peut être beaucoup plus compliqué que face à des équipes qui ouvrent le jeu en Europe dans d'autres conditions. Et ce match face à la RDC, pour moi, ça va être le match le plus excitant de
et
ces
en plus,
éliminatoires.
La RDC a bien joué ses matchs amicaux.
Et la RDC, on rappelle quand même le client. Dernier demi-finaliste de la dernière CAN, équipe assez stable, équipe qui essaie de se renforcer intelligemment aussi avec quelques binationaux. Ça va être un vrai choc, ça va pas être un match facile du tout pour les Sénégalais.
Après ce que soulève Eladji Diouf, moi j'adore son discours parce que c'est bien d'avoir des anciens joueurs africains, avoir ce discours-là un peu plus agressif, offensif vis-à-vis des nations africaines qui n'ont rien à envier aux équipes européennes.
On le voit de plus
et peut-être, ce qu'on ne sait pas, c'est est-ce que cette victoire de prestige va leur apporter un excès de confiance, un peu plus de confiance et être un peu plus sûr
d'eux.
Oui,
surtout qu'on avait la sensation ces derniers temps d'une fin d'ère d'Aliou Cissé qui était un peu triste, qui était un peu à la peine. Et justement parce que ces éliminatoires avaient un peu mal commencé en vue
et un peu celle de Sadio Mané malgré tout, parce qu'on ne sait pas dans quel niveau il est.
Quand on dit que c'est le 22e match sans perdre, malheureusement, il y a des fois comme l'élimination à la CAN, c'est-à-dire le match le plus important qu'il faut gagner. Alors certes, c'est au tir au but, mais quand même, on ne le gagne pas. Donc ça, c'est plus gênant. Alors parlons quand même, revenons un peu sur ces Anglais. Une défaite difficile à encaisser pour les Anglais sans doute, parce que les Anglais c'est quand même Bellingham, Saka, Kane, ils étaient sur le terrain, c'était pas non plus des bras cassés, ils avaient ouvert le score, après on a l'impression un peu qu'ils ont été spectateurs de la défaite, en tout cas c'est ce que regrette l'international qui est joueur de Chelsea, Trevo Chalobah.
Ce que je ressens, c'est que le Sénégal en voulait un peu plus que nous. Et j'ai vu qu'il y avait de la volonté. Nous avons eu quelques occasions, mais lorsque nous avons marqué le premier but, nous n'avons pas su profiter de la situation. Alors cette défaite nous fait mal. C'est la première depuis que Thomas Tuchel entraîne l'équipe. On voulait gagner tous les matchs. Il faudra donc en tirer les leçons qui s'imposent.
Alors, quelle leçon s'impose pour le vice-champion d'Europe, Bruno Constant?
Il y a un débat en Angleterre, il y en a qui mettent déjà, est-ce que l'équipe sous Thomas Tuchel est en train de régresser par rapport à celle de
Southgate? C'est le quatrième match, faut le préciser.
Merci de le rappeler. Rappelons que les trois premiers matchs qualificatifs, c'est trois victoires, zéro but concédé, contre les adversaires certes, avec peu d'intérêt, mais c'est la mission qui est leur, se qualifier pour la Coupe du Monde, et que ce match-là arrive en bout de piste. Et il y avait beaucoup, il manquait 4 à 5 titulaires dans le 11 type. Il y avait une défense extrêmement jeune. Je ne sais pas s'ils avaient 10 sélections à eux tous aux côtés de Kyle Walker. Donc voilà, il y a des circonstances, ce n'est pas des excuses, c'est des circonstances. Mmh. Et que le match le plus important, ça sera en septembre contre la Serbie, qui est le plus gros morceau des qualificatifs. Et puis surtout, ça fait... Ça
là
ferme
aussi,
un
on
peu.
Parle Coupe du Monde.
Ouais,
et oui, parce que derrière tous ces matchs amicaux,
c'est ça,
évidemment. Et, oui.
Et on est à un an de la Coupe
surtout
du Monde, et l'objectif, c'est la Coupe
du Monde. Il y a tellement peu de temps maintenant de concentration pour les sélections.
Thomas
c'est
Tuchel,
très important.
Thomas Tuchel, il a eu 2 rassemblements, il a eu 11 séances d'entraînement avec l'Angleterre, il a essayé 27 joueurs, dont 25 qui ont débuté les matchs, 25 joueurs différents qui ont débuté les 4 ou 5 rencontres qu'ils ont eu à disputer. Donc c'est une revue d'effectifs. Et évidemment, il est là pour une mission très courte, la Coupe du Monde, et avec l'objectif de gagner la Coupe du Monde.
Il faisait des tests alors hier aussi ?
Et il faisait encore des tests. Ouais. Il veut donner de l'expérience à beaucoup de jeunes joueurs, parce qu'il a une revue d'effectifs, il veut savoir à qui il a affaire, aussi bien sur le terrain pendant les matchs qu'à l'entraînement. C'est pour ça qu'Ivan Toney, par exemple, était présent. Il a très peu joué, mais il est en Arabie Saoudite, on ne sait pas quel niveau il a. Et il est en train de faire sa revue d'effectifs. Et à partir de septembre, et lui, c'est ce qu'il a laissé entendre, c'est qu'il va y avoir un déclic. Voilà, il va resserrer le groupe, savoir à qui peut compter, former un système, une équipe. Pour aller de l'avant et aller gagner cette Coupe du Monde.
De toute façon, cette équipe d'Angleterre a l'habitude de nous surprendre, parfois en bien, mais aussi parfois en mal. Et on verra avec Thomas Tuchel ce qu'il se passe. Ce n'était pas la seule équipe donc, à jouer à l'extérieur, équipe africaine. Il y a eu aussi les Fenech.
La victoire de la Suède 4-3 face à l'Algérie. La Suède s'est fait peur parce que la Suède menait 4-0 grâce notamment au triplé de Ken Sema. Mais c'est finalement la Suède qui s'impose, mais seulement 4-3. L'Algérie a fait preuve d'orgueil, un sursaut sur les 25 dernières minutes. Mais la première heure de la sélection entraînée par Vladimir Petkovic a été de bien mauvaise qualité. Succès de la Suède 4-3.
Est-ce la Suède qui s'est fait peur ou l'Algérie ? Alors on peut en parler et on va en parler de ce drôle de match hier soir donc à Solna qui s'est soldé par un 4 d'abord à 0 là quand les hommes de Petkovic étaient menés puis finalement ils ont donc réagi 4-3. Nabil, ça fait un peu penser finalement à un certain France-Espagne oui. Il y a quelques jours.
Bah, c'est le même, effectivement, c'est un peu le même...
Nous, on a eu juste 4-1, je crois.
Le même scénario, et puis ça aurait pu finir en 4-4, parce qu'à la fin, il y a eu 2 occasions assez nettes. Une de Bagdad Bounedja, le buteur de la finale de
mais
la CAN 2019 contre nos amis sénégalais.
Eh bien, justement, on va écouter Aïssa Mendy, parce qu'évidemment, il regrette la défaite, mais il trouve que c'est intéressant ce qui s'est passé.
Sur le continent africain, on n'a pas l'habitude d'affronter ce genre d'équipe. Donc, on a eu un peu de mal à régler certaines choses. Et je pense que la deuxième mi-temps était beaucoup mieux, même si on est mal rentré dans la deuxième mi-temps, où ils nous ont sanctionné d'un pénalty et d'un coup franc assez rapidement. Mais il faut garder toujours le positif où on a énormément de caractère dans cette équipe, énormément de qualité. Ou même à 4-0, on peut faire 4-4. On a la balle de 4-4 une ou deux fois. Donc c'est contrasté. Il y a des bonnes choses et aussi des moins bonnes qu'il faudra donner. Là, c'est la fin de saison. On voulait terminer sur une victoire. Malheureusement, ça n'a pas été possible.
Le Fenech, donc Aïssa Mendy, joueur aussi du LOSC, hein, qui a fait partie de la belle campagne du LOSC cette saison. Alors, vous y voyez aussi du positif, Nabil ?
Là, moi, je serais pas aussi. Je serais un peu plus mis. Vous savez, l'Algérie, vous connaissez, vous, Annie. Non, je serais plutôt mi figue, mi raisin. Ouais, si vous voyez ce que je veux dire. Non, il y a eu d'abord une débâcle, presque une humiliation. 4 buts encaissés, notamment avec un joueur qui joue à Chypre, sur le côté, qui leur a mis une misère.
Ça s'appelle comment ?
Sema,
ouais, voilà.
Il voulait pas s'en souvenir. C'est pour ça que je vous demande, Dominique.
Donc, en fait, ça met un peu en relief ce que les suiveurs de l'équipe d'Algérie savent aujourd'hui. Une structure d'effectifs avec des défaillances dans le secteur défensif.
Ça veut dire quoi ? Qu'elle est vieillissante, bah, cette équipe, quand même, Nabil ?
Ça veut dire qu'en gros, les Algériens, c'est tous des numéros 10. Pour vous la faire direct, il y a des bons joueurs devant, il y a des bons joueurs au milieu. Et derrière, en revanche... Ça manque de qualité, il n'y a pas eu de travail de détection, pas vraiment de travail de renouvellement.
Ouais,
un joueur comme Aïssa Mendy, dont vous parlez, Annie, à juste titre, c'est un joueur, quand il joue avec le LOSC, il joue dans une défense à 3, il est protégé. Je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais défenseur, sauf qu'aujourd'hui, il ne peut pas jouer dans une défense à 4, surtout une défense à 4 qui joue haut, qui va chercher assez haut. Donc forcément, il va être en difficulté, et c'est ce qui s'est passé. Donc, un problème quand même, je dirais structurel, sur un an, défensivement, c'est une équipe qui prend trop de buts. En revanche, alors on peut saluer effectivement la réaction, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui mettent 3 buts en 25 minutes. Ils ont quand même réagi. Il y a eu des changements. Et les changements, eux, doivent quand même interroger, notamment sur ceux qui ont été titulaires et qui n'ont rien fait. Et une fois encore, il y a eu des joueurs qui ont été en difficulté. Je parlais tout à l'heure de Toney, qui joue en Arabie Saoudite. Je crois qu'il joue avec Riyad Mahrez, si je ne dis pas de bêtises.
Je ne connais pas trop le championnat saoudien pour être
honnête. Il joue dans le championnat. Mahrez, il était quand même très absent sur le côté. De l'autre côté, Benrahma, qui est parti de Lyon pour signer pour qui veut gagner des millions à Neom, là, le club de D2 qui va monter en D1. Donc, c'est des joueurs qui ont manqué quand même d'intensité. Ça pose quand même des questions sur ces joueurs-là.
Sur la composition d'équipe.
Bon, maintenant, moi, de ce que je sais, ce match-là, ça va permettre à Petkovic, qui lit très bien les matchs. Alors, une des grandes satisfactions quand même de Petkovic depuis qu'il est arrivé, c'est que c'est quelqu'un qui corrige très bien en cours de match. Vraiment, c'est quelque chose où
Mais est-ce qu'il osera faire certaines choses ?
Alors, certains choix. Moi, de ce que je pense, c'est qu'il va aller à la CAN avec cette équipe-là, les cadres, parce qu'il pense qu'il faut de l'expérience. Et à mon avis, je pense qu'ils sortiront du premier tour, mais s'ils ne vont pas au bout, parce que je ne les vois pas aller au bout, l'Algérie ne sera pas favori de la CAN, je pense que c'est le coup d'après où il va y avoir, par contre, probablement, comme on dit à Lille, une grande braderie. C'est comme ça que je le sens. Voilà, pour des cadres, pour certains qui sont vieillissants et qui sont, quand on regarde la composition d'équipe d'hier ou la structure d'effectifs, certains joueurs, c'est des joueurs de 2019 avec laquelle l'Algérie a gagné la CAN.
La CAN, voilà. Exactement. Dominique Baïf, parmi ces joueurs, il y avait un autre Lillois, c'est Nabil Bentaleb. Ouais. Alors, on connaît le grave problème de santé qu'il a eu, problème cardiaque. Et là, il est auteur d'un doublé, l'impression.
C'est pas un doublé c'est un but et une passe D.
C'est un centre qui a failli rentrer.
Mais son entrée avec celle de Benzia a complètement changé le match.
Bouger les choses. Ouais. C'est effectivement. Un but, une passe D. Mais on est aussi content et pour l'Algérie de le voir à ce niveau-là, pour lui aussi, Dominique.
C'est extraordinaire.
C'est surtout pour lui parce qu'on peut parler de petits miracles quand on sait d'où il vient. Mm-hmm. La saison qu'il a traversée, on pensait même que. On parle de l'humain avant tout. On ne savait même pas s'il pouvait reprendre la compétition à un niveau professionnel. Mm-hmm. Et aujourd'hui, le fait d'être sur le terrain.
Il a même rejoué avec Lille à la fin de saison.
Ouais, de pouvoir retrouver ces sensations-là en tant que professionnel à un très haut niveau, c'est quand même pour moi un miracle et c'est une satisfaction. Et je pense que lui aussi, consciemment, il sait que. Maintenant, c'est du bonus. Et donc, on le voit sur le terrain. Il ne lâche rien. Il va aller jusqu'au bout. Il va vraiment tout donner parce qu'il sait la chance qu'il a. Et c'est ça aussi qui peut-être porter ses coéquipiers. C'est-à-dire que lui va montrer l'exemple. C'est-à-dire
c'est un leader, tu as raison.
Voilà, je viens très loin. Si moi, je suis capable de le faire, vous n'avez pas d'excuses à côté.
On avait vu la même chose avec Christian Eriksen. Hein.
Tout à fait.
Il était revenu sur malaise. Il était revenu à un niveau hallucinant.
Parce que ces gens, maintenant, ils savent la chance qu'ils ont.
C'est des joueurs expérimentés.
Et puis, c'est un bon joueur. Bentaleb, tu connais parce qu'il est passé par l'Angleterre.
C'était l'un des meilleurs Lillois avant son...
Exactement. On attend beaucoup de lui, toujours.
Et après, c'est une belle histoire. Il y a eu aussi un but magnifique, même si sur le terrain, il a été moins bon, mais je suis quand même obligé d'en parler parce que c'est un Marseillais. On va voir s'il continue l'aventure avec Marseille. Par contre, il y a des vraies questions sur lui. C'est Ismaël Benacer. Voilà.
Pour ce qui est des Suédois, Bruno, alors l'essentiel, on va dire, en tout cas les plus performants du moment, comme ce Gyökeres.
Oui, Victor Gyökeres.
Il n'était pas là
hier. Ni lui, ni Alexander
Isak.
Ce qui m'inquiète d'autant plus pour l'Algérie.
Kulusevski et Langa, il manquait énormément de bons joueurs.
Il manquait les meilleurs joueurs, en fait.
Et malgré tout, les Suédois ont été là. Ça veut dire qu'en ce moment, on parle beaucoup des Norvégiens.
Ils sont jeunes,
avec Haaland et autres qui nous impressionnent. Mais la Suède, dans un creux un peu après le départ de Zlatan et tout, finalement, il y a un réservoir.
Ouais, mais c'est même une bonne chose de les voir gagner sans toutes leurs stars. Parce là, tout ce que vous avez cité, c'est les stars de l'équipe. C'est quasiment l'attaque. Et Bergvall qui a pris une énorme dimension à Tottenham.
Le sélectionneur devait être content, surtout de voir que justement, il a de quoi faire.
Ce qui fait que c'est une équipe qui, collectivement, est homogène et a un fond de jeu. Et après, c'est toujours difficile d'analyser ce type de match. C'est comme le France-Espagne. Vous avez une mi-temps d'un côté, enfin une heure d'un côté, et puis
un relâchement
logique des Suédois, et l'Algérie revient. La Suède a toujours été une bonne nation.
Relâchement logique. Il y a un relâchement naturel. Quand il y a 90 minutes, il y a 90 minutes.
Quand vous menez 4-0, il y a forcément un relâchement. Ouais. Vous en prenez un, c'est pas grave. Et puis le deuxième arrive, puis vous ne remobilisez pas. Et puis c'est le troisième.
On a tellement d'exemples maintenant de ce genre de résultats.
C'est des momentum, des temps forts, des runs, comme on dit au basket.
La finale de la Coupe du Monde la dernière fois aussi, c'était des moments comme ça.
C'est bien, au moins, ça veut dire que ça n'est jamais fini.
Oui, sans parler d'Inter-Barça ou bas.
En revanche, PSG-Inter, il y a Inter.
Il n'y a pas eu de remontada.
On
n'avance pas,
elle
n'a
pas démarré. Quoi.
On l'attend toujours.
Allez, on va délaisser l'Europe, mais en attendant de rejoindre le continent sud-américain, eh bien, un peu de musique. Sahad, c'est sénégalais. Le titre Weekendou, et oui, ils l'ont fait, c'est sénégalais. Sénégal avec Sahad et le titre We Can Do, ils l'ont fait donc, et c'est sur la playlist de RFI Musique. On continue dans Radio Foot et cette fois-ci on rejoint le continent sud-américain.
Le Brésil peut valider sa qualification dès aujourd'hui pour la première de Carlo Ancelotti à domicile en tant que sélectionneur de la Seleção, le jour de ses 66 ans. Attention avec Matheus Cunha, le centre en retrait. Et c'est sur une erreur défensive paraguayenne que Vinicius lance l'idylle entre Carlo Ancelotti et la Seleção. Deux matchs seulement et déjà l'objectif accompli pour Carlo Ancelotti, le Brésil qualifié pour la Coupe du Monde 2026, 23e participation en 23 Coupes du Monde à venir.
Et oui, parce que depuis 1930, le Brésil n'a jamais manqué une édition de Coupe du Monde. Une assiduité donc qui va se poursuivre. Hier soir, à São Paulo, ils ont assuré leur participation. C'est la 12e nation et la 2e sud-américaine à se qualifier pour ce prochain mondial XXL, peut-on dire, puisque, je vous le rappelle, il y aura 48 équipes au lieu de 32. Victoire contre le Paraguay, et ça, ce n'est jamais facile. On le sait, on s'en souvient au match aller, justement, un peu la honte, on va y revenir. Mais ils avaient perdu à Asunción, les Brésiliens. Là, la sélection eh bien, a gagné avec ce but, ô combien symbolique, hein, puisqu'il a été inscrit par Vinicius. Et de quoi satisfaire le néo-sélectionneur Carlo Ancelotti.
Nous sommes très heureux de cette qualification, satisfaits de ce match. Évidemment, il y a encore du travail et nous avons un an pour nous améliorer. Il était important de valider notre billet pour le Mondial pendant cette fenêtre d'éliminatoire, ce qu'on a fait en montrant de bonnes choses. Je pense que les supporters sont satisfaits.
La torcida está contenta de l'actuation.
Alors à Torcida, effectivement, ou à Torcedores, hein, ils étaient plutôt contents, ils avaient même anticipé, ils avaient brandi une banderole pour souhaiter un heureux anniversaire au Mister qui est désormais le leur Mister, pardon, couronné. Donc, par ce premier succès prestigieux du sélectionneur italien, que peut-on dire ? Un excellent Vinicius d'abord ?
Un excellent Vinicius, oui, un bon Vinicius, un Vinicius retrouvé, un Vinicius qui... semble, avec Carlo Ancelotti, avoir aussi retrouvé le mental et les jambes, ce qui lui faisait énormément défaut sur les derniers mois et dernières compétitions avec le Brésil. Peut-être que la pression aussi était un peu trop forte et qu'il n'arrivait pas à l'assumer. Et là, depuis que Carlo Ancelotti est arrivé, depuis deux rencontres, même face à l'Équateur, on l'a vu vraiment libéré, faire les efforts pour les autres, chose qu'on ne voyait pas forcément auparavant. Et il a aussi emmené avec lui ses coéquipiers. Donc on peut aujourd'hui espérer, avec l'arrivée de Carlo Ancelotti, d'un sélectionneur fort, avec une certaine expérience du très haut niveau, avec une exigence aussi, permettre à cette équipe de retrouver un peu des couleurs.
Bruno Constant, Neymar n'est pas là, en ce moment absent, mais lui aussi un peu sur la pente descendante, avec ses multiples blessures, même s'il va rester et prolonger au Santos. Est-ce que Vinicius doit être l'homme sur lequel va s'appuyer cette sélection ?
Bah, ça devrait l'être. Quand vous portez les couleurs du Real Madrid, vous avez gagné la Ligue des Champions, vous faites partie ou vous devriez faire partie des leaders. Mais moi, je ne pense pas que ça soit un leader. Ce n'est pas quelqu'un qui montre l'exemple. Ce n'est pas quelqu'un qui a le caractère ou l'attitude d'un leader. Moi, je vois beaucoup plus ça en Rafinha, ce que je ne soupçonnais pas, notamment quand il avait joué en France, à Rennes, ou même en Angleterre, à Leeds. Mm-hmm. Et au Barça, il est devenu capitaine, il a pris des responsabilités et il les a assumées.
Et il a joué hier aussi.
Il a joué.
Il était de la partie, parce que le match précédent, il était suspendu. Ouais. Donc voilà, il l'a intégré dans ce groupe, finalement.
Et pour
Carlo,
moi, c'est plus lui le leader. Après, moi, je pense qu'il n'y aura pas de Grand Brésil sans le retour de Neymar. Parce que quand vous regardez la composition d'équipe, la défense, en dehors de Marquinhos, elle est extrêmement faible.
Même Marquinhos,
il peut y avoir des questions.
Je demande à voir.
L'animation offensive, on sait que c'est un vrai souci, parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui aiment le côté gauche de l'attaque, il faut réorganiser. La seule chose que j'ai bien aimé, moi, c'était d'avoir mis Matheus Cunha en faux neuf. Mm-hmm. Il a fait une super saison avec Wolverhampton, il va rejoindre Manchester United. On va un peu tester dans un grand club, avec la pression d'un grand club, savoir s'il est à ce niveau-là. Mais c'est quelqu'un qui marque des buts, qui est travailleur, qui est agressif, qui est fort caractère, parfois un peu trop fort dans un vestiaire, mais qui apporte quelque chose. Et voilà. Et puis, cette nation, elle avait surtout besoin d'être rassurée, en fait, d'avoir un sélectionneur qui a déjà gagné, qui va apporter du calme autour de la sélection, même si c'est compliqué autour de la sélection du Brésil, un peu comme l'Angleterre. Mais voilà. Et puis, il a une mission courte, comme Thomas Tuchel avec l'Angleterre, qui est de Brésil, vous jouez pour gagner la Coupe du Monde. Donc, la pression va être énorme, évidemment.
Évidemment. Mais effectivement, ce Brésil avait besoin, plus peut-être d'un sélectionneur étranger ou pas, qui a gagné ou pas, mais d'une personnalité. Et on a l'impression que là, ils l'ont trouvé, Nabil.
Bah, ils ont pris
je crois que la nation brésilienne, elle le sent déjà.
Ils ont pris un des meilleurs managers, non pas de la séquence, mais de l'histoire du football, tout simplement, puisque c'est quelqu'un qui a tout gagné.
L'Italie
partout,
aurait pu avoir besoin de lui.
Je pense qu'ils auraient bien aimé l'avoir.
Quelqu'un qui est très fort pour gérer les joueurs, qui a déjà une appétence particulière pour les Brésiliens. Il en a eu au Real, il en a eu aussi lors de son passage dans d'autres clubs. C'est une belle mission pour lui, je trouve. Moi, je suis content qu'il y aille, entre
c'est
guillemets.
C'est un sacré défi. Hein.
Ouais, c'est intéressant.
Puis une sélection, c'est quand même le Brésil, 5 Coupes du Monde.
Il le désirait, hein. C'est vraiment longtemps qu'il lui court après.
Oui, oui, surtout du côté du Brésil.
Pour lui, ça pourrait être une fin de carrière en apothéose, parce que je pense qu'être champion du monde avec le Brésil, il n'y a pas mieux dans le football, quoi, en fait, tout simplement, puisqu'on parle de la meilleure nation de l'histoire du football. Probablement, en moyenne pondérée, des plus grands joueurs de l'histoire aussi, parce que quand tu retraces un peu le fil de l'histoire, bah, si tu dois mettre les 20 meilleurs joueurs de l'histoire, il y a probablement 4 ou 5 Brésiliens sans grande difficulté. Maintenant, moi, bah, j'attends de voir, est-ce que lui va faire un travail de détection, là il est qualifié à la Coupe du Monde, on a le temps, est-ce qu'il va essayer.
Il a pris pas mal de joueurs 70, du cru, ouais, c'est-à-dire du championnat brésilien, et là c'était intéressant.
Parce que là, pour l'instant, honnêtement, pour dire les choses cash, si tu cours derrière un Neymar qui est un joueur en fait à temps partiel, c'est qu'en vérité, t'es en difficulté structurellement. Donc moi, j'ai fait le deuil du Grand Brésil, j'attends pas un Grand Brésil, parce que je trouve qu'en individualité, ça a perdu. Là, j'ai regardé la composition d'équipe, les latéraux, on ne sait pas qui c'est. Avant, leurs latéraux, ils étaient meilleurs que les attaquants des numéros 9 de pays. D'autres pays.
Quoi.
Mais Van der Sar, quand tu retraces l'histoire du football du brésilien, quand tu avais Cafu, Mekong, Daniel Alves,
Roberto Carlos,
à gauche, c'était que des ballons d'or. Enfin, j'exagère.
C'est pour ça que tu peux avoir un grand entraîneur, mais si tu n'as pas une bonne équipe, en Coupe du Monde, à niveau international,
c'est la partie collective qui fera la différence. Aujourd'hui, tu ne peux plus te reposer sur l'individualité. Tu n'as plus ce joueur-là qui te sort, qui peut te sortir de certains pièges. En ce moment, oui. Il y avait Neymar à une certaine époque. Maintenant, il est sur une jambe.
Mais est-ce que Hendrick, par exemple, qui est déjà au Real, le petit qui va partir
à Chelsea,
est-ce que ce ne sont pas des joueurs qui ont le potentiel pour surprendre à la prochaine Coupe du Monde ?
Ils ont le potentiel. Maintenant, il faut jouer. Hendrick, il ne joue pas au Real Madrid. Il a des quelques minutes, mais ce n'est pas suffisant. On voit avec le Brésil, il n'a pas été pris. Alors, il était blessé, mais même s'il n'a été pas blessé, je ne suis pas sûr qu'il aurait fait partie de la sélection.
C'est à lui de faire des choix aussi. Peut-être qu'il faut se faire prêter.
Le Real Madrid envisage peut-être de le prêter cette saison pour qu'il gagne du temps.
Peut le prêter à l'OM.
Estevao, c'est la même chose. Il va arriver à Chelsea. On sait que l'effectif est pléthorique du côté de Chelsea. Est-ce qu'il ne va pas être prêté ailleurs? Mais ce sont des jeunes joueurs qui ont du talent. Ça, c'est indéniable. Maintenant,
c'est
il faut les voir.
Pression après sur des jeunes joueurs comme ça.
Bien sûr, non.
Tu as la solution du problème.
On les repère à 16 ans. On veut qu'ils partent à 18.
Franchement, quid de Casemiro et Marquinhos dans un an là?
Bah, Casemiro, il a fait du bien.
Il sort une très bonne saison.
Mais Nabil, ils peuvent justement un peu jouer les rôles de Koulibaly, de Mané, de Riyad Mahrez ou de ce genre de joueurs.
Mais dans une Coupe du
Monde. Je rejoins Nabil parce que dans une Coupe du Monde qui va être marathon, il va y avoir plus de matchs. Donc ces âges-là vont compter sur une Coupe du Monde aussi longue.
Après, c'est un joueur que Carlo Ancelotti connaît très bien. Et c'est pour ça qu'il l'a rappelé aussi.
Bruno Guimarães en milieu de terrain.
Très bon.
C'est un bon joueur.
On l'a toujours aimé. Déjà depuis Lyon et maintenant Newcastle.
À assumer ce rôle de leader au milieu de terrain en l'absence de Casemiro. Quand Casemiro n'était plus présent depuis deux saisons, était titulaire et il n'arrivait pas à porter.
Ensemble.
Exactement, parce qu'il a un joueur d'expérience et il peut se reposer un petit peu sur lui. Passer de soldat à titulaire et général, c'est compliqué. Et ça, il ne l'a pas fait.
Après, il y a quand même, Bruno a bien dit, quand même l'émergence surprenante au demeurant à ce niveau-là quand même de Rafinha,
mais oui,
qui est quand même une bonne nouvelle dans les squads offensives.
On écarte vite du ballon d'or
du Brésil.
Oui, et puis pour l'état d'esprit en plus de cette équipe, quoi, de se donner un leader. Est-ce qu'il y a déjà un effet Ancelotti? Et si oui, à quel niveau? Est-ce que c'est au niveau du jeu? Est-ce que c'est au niveau de l'entourage? Est-ce que c'est aussi ce que ressent le peuple brésilien? Qu'est-ce que vous sentez, Dominique?
C'est un peu tout déjà au niveau du peuple et des supporters. Voilà, c'est quand on a su que Carlo Ancelotti arrivait, ça a été une grande bouffée d'oxygène parce qu'on sort de deux entraîneurs sélectionneurs qui n'ont pas connu de succès et on s'y attendait un petit peu.
On va dire que c'est des petits entraîneurs du championnat brésilien.
Et Dorival Junior n'avait pas les épaules et ça, on le savait dès le départ, très clairement. Donc, l'arrivée d'un sélectionneur qui a quasiment tout gagné en club peut te permettre d'avoir un peu plus d'optimisme. Et dans le jeu aussi, il y a eu véritablement un changement dans l'état d'esprit collectif parce que sur les dernières rencontres, c'était des individualités, des poulets sans tête qui couraient partout, mais il n'y avait aucune structure. Et là, depuis le match face à l'Équateur, même si le match n'était pas beau à voir, on a senti que collectivement, défensivement, il y avait une assise et qu'il y avait un petit travail qui avait déjà été fait par Ancelotti.
Alors l'Équateur, donc le Brésil, hein, qualifié comme deuxième nation sud-américaine. Ah oui, encore une question peut-être. Est-ce que le fait d'être déjà qualifié va leur donner le temps de travailler? Il y a eu 16 journées là. Est-ce
qu'il y en a encore deux en septembre?
Ils vont pouvoir en profiter justement pour se retrouver et finalement travailler à autre chose peut-être.
Déjà trouver une bonne base et des joueurs sur lesquels on peut véritablement s'appuyer parce que Ancelotti n'a que depuis deux matchs. Donc il doit encore voir d'autres joueurs, voir qui peut être en bonne combinaison au milieu de terrain.
Mais il manquait des joueurs importants là, en dehors de Neymar évidemment.
Paqueta, c'est quoi, on en est où avec lui?
Paqueta, on ne sait pas si avec la justice ou est-ce que ça en est.
Ça, c'est un coup dur parce que lui, c'est un bon joueur.
Et c'était un titulaire indiscutable de l'Asselineau. Mais sinon, à part cette absence-là, il n'y a pas
Gabriel en défense.
Militao.
Oui, mais Gabriel avec Militao, ça se joue. Militao, ouais. Et ce qu'a fait Alexandro, le joueur de Lille, sur les deux rencontres, il a marqué les esprits. Et c'est un joueur qu'on devrait suivre par la suite et qui pourrait peut-être avoir aussi sa chance pour la Coupe du Monde.
Après, le problème, c'est de parier sur Neymar. Parce que Neymar, c'est comme Youssef Attal en équipe d'Algérie. Dès qu'il tombe par terre, t'es en panique. Une fois sur deux, il se relève
mais,
pas.
Mais est-ce que tu peux... se fait souvent mal.
Non, mais est-ce que tu peux parier
ces dernières Coupes du Monde, le pauvre, il a quand même là, pas été épargné.
À chaque fois, il est au sol, c'est les warnings.
Mais surtout, Nabil, il se blesse pratiquement toutes les Coupes du Monde. On se souvient 2014, on se souvient 2018, après.
Là, il se blesse souvent avant. Là, en ce moment, c'est avant.
Là, c'est sur les phases de reprise qu'il se blesse. Mais là, il était, pas à 100%. Donc, c'est pour ça qu'il
a brûlé ton cierge. Dès qu'il tombe par terre, t'attends, tu regardes.
Mais c'est pour ça qu'aussi, il faut savoir construire sans lui maintenant.
Ouais. Alors, l'Équateur, on en parlait. Eh bien, eux aussi se sont qualifiés. L'Équateur, troisième de ce groupe sud-américain, El Tri, comme on surnomme cette équipe, a réussi un match nul au Pérou. Et c'était pas simple. Hein. Ils ont terminé à 10.
Ouais. Et surtout, ils avaient aussi accroché le Brésil lors du match précédent. Et c'est une équipe
équatorienne
qui a des individualités aussi qui sortent
du monde. Il faut faire très attention.
Bien sûr,
La cinquième fois qu'ils participeront à la Coupe du Monde. Et puis en plus, ils avaient commencé les éliminatoires, je ne sais pas si vous vous souvenez, avec handicap 3, moins 3, parce que alors ils avaient falsifié un passeport.
C'est pour un joueur.
Bon, ça, c'est pas terrible. Mais j'aurais voulu juste un petit mot, c'est... les Sud-Américains, 6 sur 10 se qualifient automatiquement, 6 sur 10 sont qualifiés, donc c'est quand même un grand pourcentage de participer. Un septième via les barrages.
Éventuellement.
Mais pour certains, c'est déjà fini, et c'est le cas du Chili. Ouais. Chili, dernier du groupe. Alors, ils viennent de se prendre 2-0 en Bolivie. Bon, d'habitude, on perdait toujours face à la Bolivie, sauf quand ils vous piègent à 4000 mètres d'altitude, à El Alto, et ça a été le cas, ils ont perdu 2-0. Ils ont viré l'entraîneur, l'Argentin, Ricardo Gareca, mais surtout, et on peut lire ce que dit Alexis Sanchez, ils ont gagné 2 Copa América, mais en dehors de ça, les deux dernières Coupes du Monde, ils n'étaient pas là déjà.
Bien sûr, mais même dans les éliminatoires, depuis ces Copa América, malheureusement, cette génération qui a été vieillissante, on n'a pas su la remplacer, on a multiplié les sélectionneurs qui n'ont pas réussi, et on voit cet effectif-là qui est en bout de course, mais depuis 3 ans, au moins 3 ou 4 ans.
On dirait une voiture qui tire à 300 000 km.
Je suis désolé.
À chaque fois, tu regardes, c'est toujours les mêmes qui sont là. Medel, Isla, Vargas, comment il s'appelle? Alors, Alexis Sanchez. Il est compétitif.
Oui, mais
il y a Vidal qui est parti, mais c'est toujours la même équipe. Et c'est même le gardien qui était au Barça, pas au Barça, mais...
Bravo.
Ouais, bravo, on dirait Georges Clooney, quoi. Non, mais sérieux, on dirait Georges Clooney dans la pub, là, pour les cafés. Il est toujours au but, quoi.
Non, mais il y a un manque aussi d'une génération qui n'a pas su prendre la chance et prendre le pouvoir derrière, aussi en termes de qualité. Il faut être clair et net. Hein. Derrière, il y a un déficit de qualité qui fait que cette sélection, malheureusement, elle a du mal
Là, c'est vraiment bout de piste.
J'aime bien l'image de la voiture à 300 000 km au compteur. Dans la cordillère des Andes, c'est dur à passer quand même.
Ça ne monte plus, là. Ça grimpe plus.
Non, mais ils ont plus que tiré sur la piste.
Parce qu'on se souvient quoi du Chili? 98, avec Zamorano, Salah,
Tapia.
C'était la grande époque de cette équipe.
Même après, sur la Copa América,
c'est
souvent une question de génération.
Ils ont quand même été super forts parce qu'ils ont gagné 2 Copa América et en Coupe du Monde.
On est
ils font un énorme match
avec un grand entraîneur aussi.
Ils se font sortir par l'Espagne, si je dis pas de bêtises, en Coupe du Monde, parce qu'ils font un gros match. C'était des clients, les Chiliens. Les clients maintenant en Amérique du Sud, genre outsiders, c'est Équateur. Plutôt Équateur et Colombie.
Colombie, Cafeteros, effectivement, qui sont très bons. Donc, les Uruguayens.
Les Uruguayens, ça a eu du mal. Alors, Bielsa avait commencé à faire du bon travail, mais on a senti que sa méthode commençait un peu à attirailler certains joueurs. Mm-hmm. Et ça a beaucoup parlé, alors pas sur ces matchs-là, mais sur les matchs précédents. Là, ils ont remporté le dernier match hier, mais on sent qu'au niveau des joueurs, il y a peut-être une certaine lassitude. Alors, pourtant, on pensait que c'était des joueurs faits pour Bielsa, des travailleurs, des joueurs qui aiment aller au combat. Et malheureusement, on sent que cette méthode-là, peut-être, a fini par user, même si ça fait pas longtemps qu'il est
Le gardien qu'on voyait toujours, Muslera, c'est fini. Ouais, extraordinaire. Bon, il y en aura un autre, on prendra l'habitude. Ouais. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été dans Radio Foot. Et Radio Foot continue demain, bien sûr. Ça sera avec Olivier.